Brothers and sisters, we welcome.
Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence, où nous prenons le temps de penser avec gratitude à la naissance et à la mission de notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous souhaitons du fond du cœur un joyeux Noël aux personnes qui assistent à cette veillée et à toutes celles qui la suivront en différé. Nous saluons la présence de la première présidence, des membres du Collège des 12 apôtres, ainsi que d'autres autorités générales et présidences générales d'auxiliaires qui sont avec nous. La musique de cette veillée de Noël sera interprétée par le chœur du Tabernacle et par l'orchestre de Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur et l'assemblée chanteront à présent Premier Noël. Ensuite, Kenneth Johnson des 70 fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite For unto us a child is born.
Eternal Father in heaven.
Notre Père éternel qui es aux cieux, avec révérence, nous tournons vers toi dans la prière, reconnaissant toute ta majesté et ta gloire. Cependant, nous sommes encouragés par la connaissance de savoir que nous sommes tes enfants. Nous te remercions de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui vint marcher dans les sentiers de la mortalité afin de nous permettre, à nous tous, tes enfants, d'obtenir les bénédictions de l'immortalité et d'avoir l'occasion de la vie éternelle. Nous te remercions pour des prophètes vivants et à cette époque d'avoir le président Thomas S. Monson ordonné à cette autorité qui nous dirige. Nous prions pour lui, pour qu'il ait ton pouvoir et que la prière des saints le soutienne. Te prions pour qu'il ait cette force et nous te remercions pour les nobles apôtres afin qu'ils soient bénis, eux et leurs familles. Et nous te prions particulièrement pour Sœur Frances Monson, pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie et être aux côtés de son mari. Te prions pour ceux qui sont loin de la maison à cette période de Noël, eux qui défendent la liberté. Et nous te prions pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité. Nous te prions pour ceux qui proclament l'Évangile, afin qu'ils puissent amener ceux de tes enfants qui te cherchent pendant cette période de célébration de Noël à toi. Nous te prions pour ceux qui vont te célébrer par la musique et le chant ce soir, afin qu'ils puissent performer pour le bien-être de tous et pour eux-mêmes, afin que nous ressentions et éprouvions une foi plus profonde en ton Fils et en toi-même. Nous te prions que ce ne soit pas seulement une occasion de célébrer Noël, mais que ce soit un moment de révélation pour nous, et que notre foi en toi et en ton Fils augmente, et que nous puissions ainsi aider ceux qui ont faim, ceux qui sont malades, et que nous soyons des exemples en toutes choses. Nous te prions de bénir ce rassemblement de saints avec reconnaissance au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Dieter F. Ohrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Ohrdorf, le chœur chantera Minuit chrétien. Après ce chant, j'aurai l'honneur de vous adresser la parole. Et à la fin de mon discours, le chœur chantera How far is it to Bethlehem?
After the end of World War II,
juste après la Deuxième Guerre mondiale, ma famille a vécu quelque temps à Zwickau, en Allemagne de l'Est. Nous y avons trouvé l'église et nous nous sommes fait baptiser. L'église possédait une petite villa qui avait été aménagée en lieu de culte et nous y retrouvions les autres membres de l'église pour adorer le Sauveur et renouveler nos alliances du baptême. Parmi les choses les plus saisissantes de notre chapelle, il y avait les beaux vitraux représentant le Sauveur et la visite de notre Père Céleste et de son Fils à Joseph Smith, le prophète. Jeune garçon, je regardais souvent ces vitraux et je ressentais un esprit particulier. Comme j'aimais notre jolie petite église. Son esprit particulier semblait se faire encore plus présent pendant la période de Noël. Sans pouvoir dire pourquoi, les odeurs étaient plus douces, l'ambiance plus silencieuse et les lumières plus ravissantes, car elles reflétaient les vitraux pendant ces sombres soirées d'hiver. Je n'oublierai jamais cette villa à cause de l'esprit que je ressentais entre ces murs. Des années plus tard, j'ai été triste d'apprendre que cette adorable chapelle qui nous avait accueillis pendant nos premières années de membres de l'Église avait été démolie pour faire place à une grande tour d'appartement. Je suppose que ceux qui ont décidé de raser la villa avaient de bonnes intentions et qu'ils ne savaient pas ce que signifiait cette villa pour notre petit troupeau. Pour eux, elle ressemblait probablement à n'importe quelle maison. S'ils l'avaient vue comme un lieu de culte, un lieu de réjouissance et d'amitié, une église sacrée, s'ils avaient seulement vu l'endroit comme je l'avais vu étant enfant, ils auraient peut-être pris une autre décision. J'aime l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Elle contient cette remarque à propos. Les adultes ne comprennent jamais rien par eux-mêmes. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours devoir tout leur expliquer. Plus loin, un sage renard explique une autre vérité importante au petit prince. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ne pas pouvoir voir ce qui est sacré, ni avec les yeux, ni avec le cœur, est une tare de la condition humaine depuis le commencement. Car les choses que certains hommes estiment d'être une grande valeur, d'autres les méprisent et les foulent aux pieds. Parfois, les choses les plus précieuses et sacrées sont devant nous, sous nos yeux, mais nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas les voir. C'est particulièrement vrai pendant cette belle et chère période de Noël. C'est un moment béni. Les arbres sont décorés de jolies lumières, les magasins scintillent de lumières éblouissantes et les rues débordent d'une foule d'acheteurs à la recherche de cadeaux pour les personnes qu'ils aiment. Toutes ces vitrines et décorations spectaculaires qui appellent notre attention peuvent être belles et plaisantes. Mais si c'est là tout ce que nous voyons, alors nous manquons ce qui est sous nos yeux. Parfois, malgré nos meilleures intentions, nous sommes si préoccupés par nos responsabilités nos engagements et le stress de tout ce que nous avons à faire que nous ratons l'occasion d'ouvrir notre cœur à ce qui est essentiel et sacré. Même pendant le ministère du Sauveur, beaucoup de gens ne l'ont pas vu, pourtant il marchait parmi eux, sous leurs yeux. Pourquoi ne le voyaient-ils pas? Jésus-Christ est né dans une étable entourée d'humbles animaux. Il a grandi dans un village dénigré, en marge de la civilisation. Il n'a pas suivi le cursus d'éducation classique. Il n'a pas fait d'école de philosophie, d'art ou de littérature. Certaines des personnes qui ont écouté ses enseignements se sont demandé d'où lui venait son éducation, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et d'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Les sophistiqués et les orgueilleux, ceux qui mettaient leur confiance dans la science du monde, ne le voyaient pas. Jésus le Christ n'était pas riche. Il n'avait pas non plus de poste politique. Il vivait et enseignait parmi des gens humbles, d'un peuple esclave des Romains. C'est pourquoi il n'a pas semblé digne d'intérêt aux yeux des dirigeants politiques de l'époque. Après tout, ils se souciaient de diriger le monde. Ils étaient bien trop occupés pour faire attention à un humble prédicateur de droiture. Quand Jésus était devant Pilate, le puissant gouverneur romain n'a vu qu'un instructeur à l'origine de troubles dans sa juridiction. Les riches et les influents, ceux qui étaient captifs de leurs affaires ou du gouvernement, ne l'ont pas vu.
Les scribes,
les pharisiens et les autres dirigeants religieux de l'époque attendaient le Messie. Ils avaient étudié les Écritures et attendaient impatiemment le temps de la venue de celui qui délivrerait Israël. Ils désiraient voir ce jour. Ils priaient pour sa venue. Mais ils étaient si imprégnés de leurs traditions et si aveuglés par leur propre interprétation des Écritures qu'ils n'ont pas vu l'homme humble qui marchait parmi eux. Jésus n'est pas venu de la façon qu'ils l'auraient souhaité. Il n'était pas allé à leurs écoles religieuses. Pire encore, il n'était d'accord avec aucun de leurs enseignements. Il ne pouvait pas être l'élu. Les suffisants et ceux qui ne voulaient pas apprendre, ceux qui n'ouvraient pas leur cœur à l'esprit, ne le voyaient pas. Mais qui l'a vu? Siméon, un homme âgé, pieux et juste, a vu le Christ. Quand Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus au temple, Siméon a su par le pouvoir du Saint-Esprit qu'il était réellement le Christ, le Fils du Très-Haut. Et il a pris le bébé dans ses bras et l'a béni. D'humbles pêcheurs, ses ouvriers l'ont vu. Les malades, les humbles et les découragés l'ont vu et l'ont reconnu comme étant le salut d'Israël. Il y en a quelques-uns parmi les riches et les puissants qui voulaient apprendre et qui ont donc pu voir le Christ. Nicodème, un dirigeant des Juifs, l'a vu, ainsi que le riche Joseph d'Arimathée et Zachée le publicain. Voyons-nous le Christ? Parfois, quand nous lisons l'histoire des personnes qui n'ont pas vu dans le Sauveur qui il était, nous sommes surpris de constater à quel point ils étaient aveugles. Mais en cette période de Noël et le reste de l'année, ne laissons-nous pas, nous aussi, les distractions cacher le Christ? Certaines distractions sont extérieures, les cadeaux à choisir, les décorations, ou les publicités envahissantes, mais souvent, c'est ce qui est en nous qui nous empêche de voir le Christ. Certains ont une telle fierté intellectuelle qu'elle les éloigne du Christ. À une époque où des montagnes de connaissances sont à portée de main, l'histoire connue de Jésus le Christ peut se perdre dans le flot des avancées technologiques, des nouvelles urgentes, ou parmi les derniers livres ou les films à la mode. Certains sont si pris par les détails de leur vie qu'ils ne prennent guère de temps pour quoi que ce soit d'autre. Ils reconnaissent des lèvres les bienfaits des choses de l'esprit, mais leur cœur se porte tellement sur les choses du monde qu'ils ne voient pas le Christ. Certains, comme les pharisiens, cherchent le Christ, mais leur cœur se porte tellement sur leurs propres théories, passe-temps spirituels et opinions, qu'ils ne le reconnaissent pas. Malgré leurs bonnes intentions, ils ne reconnaissent pas les révélations du Saint-Esprit qui changent le cœur, et ils ratent le seul moyen de recevoir un témoignage sûr de Jésus-Christ. Voyons le Christ dans Noël. C'est une période de réjouissance, une période de célébration, un moment merveilleux où nous reconnaissons que notre Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils unique pour racheter le monde, pour nous racheter. C'est un des temps d'actes de charité et d'amour fraternel. C'est un moment pour pardonner et être pardonné.
It is the season of forgiving and being forgiven. But perhaps most of all,
mais peut-être le plus important, que ce soit un temps pour chercher l'agneau de Dieu, le roi de gloire, la lumière éternelle du monde, le grand espoir de l'humanité, le sauveur et rédempteur. Je promets que si nous mettons un peu d'ordre dans nos vies, et si nous cherchons le Christ pur et aimant avec humilité et sincérité, nous le trouverons, nous le verrons à Noël et tout au long de l'année.
Of this I testify.
J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'histoire de Noël est une histoire d'amour. Nous l'avons entendue pour la première fois avant que le monde soit créé. Notre Père Céleste nous a fait part de son plan de bonheur pour nous tous, ses enfants bien-aimés. Par amour, il nous laisserait descendre de ses palais royaux pour vivre dans un monde où nous serions libres de choisir de revenir au foyer auprès de lui. Il nous a dit qu'il nous serait si dur de choisir le bien, de surmonter les tentations, que nous aurions besoin d'un sauveur. Nous aurions tous besoin d'un pouvoir supérieur au nôtre pour être sauvés de la mort et du péché. Jéhovah, du fait de son grand amour pour le Père et pour nous, s'est porté volontaire pour descendre de sa position exaltée de premier-né, parfait, dans le monde des esprits, pour affronter les épreuves que nous affronterions et nous sauver si nous l'aimions assez pour respecter les commandements qu'il nous donnerait. L'essence de ces commandements serait d'aimer le Père et son Fils, ainsi que tous les autres enfants de Dieu. Quand nous avons entendu cette histoire, notre cœur s'est rempli de tant d'amour pour le Père et son Fils que nous avons poussé des cris de joie et nous les avons adorés. Depuis, beaucoup ont raconté le magnifique moment de cette histoire où l'enfant Jésus est né pour nous sauver et nous conduire à notre foyer. Les récits inspirés que nous chérissons le plus sont ceux qui nous aident à sentir de nouveau l'amour, la tendresse et la sollicitude du Père et de son Fils bien-aimé pour chacun de nous, en particulier pour les moindres d'entre nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons le récit qu'a fait Luc de la naissance de Jésus. Chaque fois que nous l'entendons, nous pouvons ressentir l'amour de notre Père pour nous et pour tous ses enfants. Chaque détail du récit nous témoigne de l'authenticité du message d'amour. Marie, la mère de Jésus, enveloppe tendrement son premier-né et le couche dans une mangeoire. Dieu envoie des anges dans une lumière resplendissante annoncer à d'humbles bergers que le Messie attendu depuis longtemps est né. Et Luc nous raconte que des cœurs d'anges ont été envoyés pour célébrer le plus grand des dons de notre Père céleste aimant à ses enfants. Les paroles de Luc suscitent dans notre esprit et dans notre cœur le souvenir des accents de la musique angélique. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se choisit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » L'histoire de Noël que nous relate Luc suscite des sentiments de paix et de bonne volonté, tout comme le cœur des anges l'a promis. Tout récit inspiré de la naissance de Jésus a ce pouvoir. Le grand prophète Ésaïe a écrit sur l'enfant Christ des siècles avant qu'il naisse dans une étable. Il savait que le Christ naîtrait pour nous sauver et pour devenir le roi des rois. Vous avez entendu ces paroles. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Handel a mis le récit de Noël d'Ésaïe en musique. Et ses paroles, chantées par des chœurs, réjouissent les gens depuis des générations. Certains d'entre nous les ont chantés eux-mêmes. Cette semaine même, encore, on a invité des membres de ma paroisse à apporter leur partition pour chanter avec le chœur. Chaque fois que j'entends ou chante l'histoire d'Ésaïe, j'éprouve de la joie et de la paix. La promesse de paix que le Seigneur a apportée à sa naissance se réalise chaque fois que nous nous qualifions pour ressentir son amour et son pouvoir purificateur dont nous bénéficions du fait de son expiation. Et chaque récit inspiré de Noël nous fait ressentir son amour pour nous. Par amour, notre Père Céleste a envoyé des anges et des prophètes raconter cette histoire de Noël avant même la naissance de Jésus. Dans le livre de Mormon, Moroni nous dit pourquoi Dieu l'a fait. Car voici, sachant tout, étant d'éternité en éternité, voici Dieu a envoyé des anges pour servir les enfants des hommes, pour rendre manifeste ce qui concerne la venue du Christ. Et dans le Christ, tout ce qui était bon devait venir. Et Dieu a aussi déclaré aux prophètes de sa propre bouche que le Christ viendrait. C'est pourquoi, par le ministère d'anges et par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, les hommes commencèrent à faire preuve de foi au Christ. Et ainsi, par la foi, ils se saisirent de tout ce qui est bon. Il en fut ainsi jusqu'à la venue du Christ. Il en est encore de même après la venue du Christ. Nous nous saisissons de toutes bonnes choses par notre foi en lui. Les histoires de Noël vraies accroissent toujours la foi en lui et en sa mission. Et avec cette foi, grandit notre détermination de nous joindre à lui pour aider à sa mission de miséricorde et de salut. C'est merveilleux de se souvenir toujours de lui, mais surtout au moment où nous célébrons sa naissance. Il est venu pour bénir les enfants. Il a guéri les malades. Il a invité tous, même ceux qui l'ont méprisé, à le suivre, et ainsi à choisir la voie qui ramène auprès de notre Père Céleste. Nous pouvons choisir en ce Noël et chaque jour de créer une petite partie de l'histoire de Noël dans notre vie personnelle. Nous pouvons accepter l'invitation des prophètes vivants d'aider les gens qui sont perdus le long du chemin et qui s'en sont écartés à y revenir. Nous pouvons proposer l'Évangile, qui est le seul chemin qui ramène au foyer à tous les gens que nous rencontrons. Nous pouvons encourager les gens qui sont fatigués, qui ont faim, qui sont seuls, comme le Sauveur l'a fait, et comme il nous invite à le faire avec lui. Quand nous le faisons, ils peuvent ressentir combien le Sauveur les aime et veut les guider sur le chemin qui mène au Dieu qu'il aime. Dans les histoires sur la naissance du Christ, nous pouvons voir et sentir qui il était et qui il est. Cela allège notre fardeau sur le chemin, et cela nous amènera à nous oublier et à alléger le fardeau des autres. Ainsi, chaque jour pourra ressembler au plus beau de nos Noëls passés. Nous pourrons ressentir de nouveau l'approbation pleine d'amour et les remerciements du Sauveur. Et les gens que nous aiderons pour lui pourront sentir la main secourable que le Maître leur tend, pourvu qu'ils choisissent de la saisir. Je témoigne que l'enfant né de Marie à Bethléem était le Fils divin et parfait de Dieu. Il nous aime à la perfection, tout comme notre Père nous aime. Jéhovah est venu au monde en tant que Christ pour ouvrir à tous la voie et la seule voie qui permet d'échapper au péché et au chagrin. Je prie pour que nous choisissions cette voie et aidions tous ceux que nous le pouvons à retourner auprès de Dieu avec nous dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le chœur du tabernacle et l'orchestre de Temple Square de la belle musique. Et nous vous remercions, chacun de vous, d'être ici ce soir. nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Douce nuit » et l'assemblée se joindra au chœur pour la troisième strophe. Ensuite, Sœur Cheryl Sellant, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture.
My beloved brothers and sisters,
chers frères et sœurs, comme je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Comme vous, j'étais inspiré, édifié par le discours du président Haring et du président Urdorf, ainsi que par la magnifique musique interprétée par le chœur et l'orchestre. Une phrase que nous chantons dans l'un de nos cantiques contient une vérité. Le temps passe aussi vite que l'éclair. Encore une année de passé, et nous revoici à la période de Noël. Récemment, je me suis remémoré les Noëls passés et je me suis rendu compte que probablement aucun autre moment de l'année ne procure de souvenirs aussi poignants que Noël. Les Noëls dont nous nous souvenons le mieux ont généralement peu à voir avec les biens matériels, mais beaucoup à voir avec la famille, l'amour, la compassion et la sollicitude. Cette pensée donne de l'espoir à ceux d'entre nous qui craignent que la signification simple de cette fête disparaisse face au mercantilisme, à l'opposition de gens d'autres opinions religieuses, ou bien tout simplement parce que nous sommes si pris par les pressions de cette période que nous en perdons l'esprit tout particulier que nous pourrions ressentir autrement. Beaucoup de gens en font souvent trop en cette période de l'année. Nous pouvons en faire trop pour le temps et l'énergie dont nous disposons. Peut-être n'avons-nous pas assez d'argent à dépenser pour ce qui nous semble nécessaire d'acheter. Souvent, les efforts de la période de Noël nous laissent stressés, lessivés et épuisés, alors que nous devrions ressentir les joies simples de la commémoration de la naissance du nouveau-né de Bethléem. Malgré tout, en général, l'esprit tout particulier de cette période réussit à se manifester dans notre cœur et dans notre vie, malgré les difficultés et les distractions qui peuvent prendre notre temps et notre énergie. Il y a de nombreuses années, j'ai lu ce qui s'est passé à Noël quand des milliers de voyageurs fatigués se sont trouvés bloqués à l'aéroport bondé d'Atlanta en Géorgie. Le Grésil avait gravement retardé la circulation aérienne et les passagers essayaient de se rendre là où ils voulaient le plus se trouver pour Noël, très probablement dans leur foyer. C'était en décembre 1970. Quand les 12 coups de minuit ont sonné, les passagers mécontents se sont massés autour des comptoirs de la compagnie, échangeant des propos vifs avec les agents dont le sourire s'était depuis longtemps volatilisé. Eux aussi voulaient être chez eux. Quelques personnes réussissaient à somnoler sur des sièges inconfortables. D'autres étaient rassemblés dans des kiosques pour feuilleter silencieusement des livres de poche. S'il existait un trait commun entre les individus de cette foule bigarrée, c'était la solitude. Une solitude envahissante, inéluctable, étouffante. Mais dans cet aéroport, les convenances exigeaient que chaque voyageur préserve sa barrière invisible entre lui et les autres. Il valait mieux être seul que s'impliquer, ce qui aurait signifié inévitablement écouter les récriminations d'autres passagers moroses et découragés. En fait, il y avait plus de passagers que de places disponibles dans chacun des avions. Quand parfois un avion réussissait à décoller, il restait plus de voyageurs en attente que de voyageurs qui avaient embarqué. Les mots « stand-by », « réservation confirmée » et « passagers de première classe » réglaient les priorités et indiquaient qu'on avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence, de la prévoyance ou qu'on n'en avait pas. La porte 67 était un microcosme de l'ensemble de l'aéroport caverneux d'Atlanta. Cette enceinte vitrée, exiguë, était bondée de voyageurs qui espéraient se rendre à la Nouvelle-Orléans, à Dallas ou à d'autres destinations à l'ouest. À l'exception de quelques personnes qui avaient la chance de voyager à deux, il y avait peu de conversations à la porte 67. Un représentant de commerce, comme résigné, regardait en l'air d'un air vide. Une jeune mère serrait son bébé dans ses bras, le berçant doucement, en essayant vainement de calmer ses gémissements. Il y avait aussi un homme vêtu d'un costume de flanelle grise, de coupe élégante, qui semblait insensible à la souffrance collective. Il y avait une certaine indifférence dans sa façon d'être. Il était absorbé dans des papiers. Peut-être calculait-il les bénéfices de fin d'année de sa société. Un voyageur, au nerf à vif, assis non loin de lui, en observant cet homme occupé, aurait pu le prendre pour Ebenezer Scrooge. Soudain, le silence relatif a été brisé par un vacarme. Un jeune homme en uniforme militaire, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, était en conversation animée avec les gens au comptoir. Le jeune homme avait un billet non prioritaire à la main. Il suppliait l'agent de laisser embarquer par Nouvelle-Orléans afin d'y prendre le car pour l'obscur village de Louisiane où il habitait. L'agent lui dit d'un ton las que les perspectives étaient peu encourageantes pour les prochaines 24 heures, peut-être pour plus longtemps. Le jeune homme paniquait. Aussitôt après Noël, son unité allait être envoyée au Vietnam, où à l'époque la guerre faisait rage. Et s'il ne prenait pas ce vol, il risquait de ne plus passer un Noël chez lui. L'homme d'affaires lui-même leva les yeux de ses mystérieux calculs et montra un intérêt retenu. L'agent était manifestement ému et même un peu gêné, mais il ne pouvait offrir que de la sympathie, pas d'espoir. Le militaire au comptoir de départ jetait des regards angoissés dans la salle bondée, comme s'il y cherchait un visage amical. Finalement, l'agent annonça que le vol était prêt pour l'embarquement. Les passagers, qui avaient attendu de longues heures, se levèrent, rassemblèrent leurs affaires et prirent lentement le couloir vers l'avion qui attendait. 20, 30, 100, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. L'agent se tourna vers le jeune soldat désespéré et haussa les épaules. Sans qu'on sache pourquoi, l'homme d'affaires était resté en arrière. Il s'avança et dit discrètement à l'agent, « J'ai un billet confirmé. Je voudrais donner ma place à ce jeune homme. » L'agent le fixa, incrédule, puis fit signe au soldat. Incapable de parler, le visage baigné de larmes, le garçon, en costume kaki, serra la main de l'homme au costume de flanelle grise, qui se contenta de murmurer, « Bonne chance. » Passez un joyeux Noël. Bonne chance. Quand la porte de l'avion se ferma et les commoteurs commencèrent à vrombir, l'homme d'affaires fit demi-tour, saisit son attaché-caisse et se dirigea vers le restaurant ouvert toute la nuit. Seules quelques rares personnes parmi les milliers bloquées à l'aéroport d'Atlanta furent témoins de la scène qui se joua à la porte 67. Mais pour celles qui la virent, toute l'atmosphère maussade de frustration et d'hostilité fit place à la lumière. Cet acte d'amour et de bonté entre inconnus avait porté l'esprit de Noël dans leur cœur. Les lumières de l'avion qui partait clignotaient comme des étoiles, tandis que l'appareil se fondait dans la nuit. Le bébé dormait maintenant en silence sur les genoux de la jeune mère. Peut-être un autre vol partira-t-il dans pas trop longtemps. Mais les témoins de ce qui s'était passé étaient moins impatients. La lumière continuait de briller, douce et omniprésente, dans la petite étable de verre et de plastique de la porte 67. Mes frères et sœurs ne trouvent pas la véritable joie de Noël en courant et se précipitant pour faire davantage ou en achetant les cadeaux obligatoires. La véritable joie se trouve en faisant preuve d'amour et de compassion inspirée par le Sauveur du monde qui a dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, C'est à moi que vous les avez faites. En cette période joyeuse, puissent les discordes personnelles s'oublier et les animosités guérir. Puissions-nous, dans la joie de cette période, nous souvenir des nécessiteux et des affligés. Puissions-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, tout comme nous espérons recevoir le pardon. Puisse la bonté abonder dans notre cœur et l'amour régner dans notre foyer. En réfléchissant à la manière dont nous allons dépenser notre argent pour acheter des cadeaux en ce Noël, planifions aussi comment nous allons passer notre temps pour contribuer à apporter le véritable esprit de Noël aux autres. Le Sauveur a donné généreusement à tous, et ses dons étaient d'une valeur incommensurable. Tout au long de son ministère, il a béni les malades, a rendu la vue aux aveugles, lui aux sourds, et a fait marcher les paralytiques et les infirmes. Il a rendu la pureté aux impurs, il a rendu le souffle de vie aux morts, il a donné l'espérance à ceux qui n'en avaient pas, et a déversé la lumière dans les ténèbres. Il nous a donné son amour, son service et sa vie. Quel est l'esprit que nous ressentons au moment de Noël? C'est son esprit, l'esprit du Christ. Dans le silence de la nuit, fut fait ce don divin. Ainsi, simplement et sans bruit, Dieu bénit les humains. Nul n'entend sa venue dans ce monde pécheur, mais Jésus entre, bienvenu, dans les plus humbles cœurs. Avec l'amour pur du Christ, marchons sur ses pas à l'approche de la période de célébration de sa naissance. En le faisant, souvenons-nous qu'il continue de vivre et d'être la lumière du monde qui a promis. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À chacun de vous, mes frères et sœurs, j'exprime mon amour et je donne ma bénédiction. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Que l'amour, la bonté et la paix règnent dans votre cœur et dans votre foyer. Que ceux qui ont le cœur lourd trouvent la guérison que seul procure celui qui console et rassure. Avec l'Esprit du Christ dans notre vie, nous serons de bonne volonté et éprouverons de l'amour à l'égard de tout le genre humain, non seulement cette période, mais aussi tout au long de l'année. Puissions-nous connaître cette bénédiction. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Our Father in heaven.
Notre Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants de la beauté de cette soirée, de la douceur de l'esprit que nous avons ressenti pendant cette heure. Nous sommes reconnaissants du message d'amour, d'inspiration qui nous a été donné ce soir par tes serviteurs choisis. Nous sommes reconnaissants de les avoir et nous prions pour que tu les fortifies, que tu les bénisses dans le service qu'ils nous rendent. Nous sommes tout particulièrement reconnaissants de ce soir de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants de sa naissance, de sa vie, du message qu'il nous a donné, de sa mission, de l'expiation qu'il a faite pour chacun de nous. Nous prions, Père, pour que nous puissions conserver cet esprit que nous avons ressenti, un esprit d'amour, esprit de paix, esprit d'espoir. Et nous voulons être capables, Père, de mener une vie plus digne, que nous puissions être capables d'être davantage comme tu veux que nous soyons, pour que nous puissions nous tourner vers les gens qui nous entourent, que nous puissions être une bénédiction pour eux, que nous puissions les soutenir, leur apporter la paix. Nous sommes tellement reconnaissants de l'Évangile, des bénédictions que nous avons. Nous te prions, Père, de nous aider à garder cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.